Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Et on accueille Sophie Cabaune, évidemment, qui est là. Salut ma Sophie, comme
salut,
tous les samedis,
salut,
tous les dimanches.
Christophe, bonjour à tous.
Je vais dire ma Sophie parce qu'autrement, on va taper sur les doigts. Comment ça va?
Bah, ça va bien, et toi?
Bah écoute, on va pas mal, pas mal. Tu sais qu'on va aller aux États-Unis là? On va aller
dans le temple de la natation universitaire.
Toi qui as connu ça
à Indianapolis.
En plus,
j'ai
à Indianapolis.
J'ai une fois les NCA dans ma vie et c'était à Indianapolis.
Oh ouais,
ça reste.
Au souvenir, non?
Ouais, avec les Jeux Olympiques, le plus beau souvenir de ma carrière, ouais.
Dis donc, faut quand même être blindé pour faire des études aux États-Unis, hein.
Ah oui, 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 je te confirme. Je te confirme et c'est bien pour tous les athlètes qui arrivent justement maintenant, qui sont justement sollicités par les universités américaines. C'était pas le cas avant, ça l'est de plus en plus aujourd'hui. Je vois la petite Marie-Ambre Molu, qui est la meilleure nageuse française de sa catégorie d'âge, qui a 18 ans aujourd'hui. Elle a été sollicitée par 5-6 universités différentes. Il a fallu qu'elle fasse un choix et ces universités-là lui payent une bourse complète d'études.
Ah d'accord, c'est-à-dire que tu n'as rien à débourser?
Non, en échange de nager contre l'université, tu ne débourses rien et les études, là, elle part à Berkeley au mois de septembre. Berkeley en Californie, qui est vraiment en plus aussi bien au niveau natation qu'au niveau études, vraiment une université extrêmement prestigieuse, c'est 80 000 euros l'année d'études. Donc quand tu fais un bac plus 5, tu t'endettes, certains Américains s'endettent à vie pour faire leurs études dans une grande université américaine.
La Donc natation la, t'offre la, ça. La morale, c'est faites du sport, vous pourrez faire vos études.
Oui, et en plus, vous êtes
ça.
Extrêmement bien considéré en tant qu'athlète dans l'université.
Et j'ai l'impression que c'est plutôt le cas de Léon Marchand. On va rejoindre tout de suite Julien Richard en direct, donc d'Indianapolis. Julien qui suit ses finales NC. Hey, hey. Hello, Julien.
Ça va, Julien? Quel accent.
Richard.
Salut, Julien. Richard. Hi, guys.
Comment ça va, mon Julien? Il est tôt, dis donc. Il est quoi?
Il est tard, non? Ah,
non, d'accord. Il s'est couché.
Non, il est 9h. Les nageurs sont en train de s'échauffer pour la dernière journée dans le bassin d'Indianapolis. Donc Sophie connaît très bien, où il y a un immense plongeoir, hein, parce qu'il y a des compétitions de plongeon aussi. Et sur le mur, il y a le nom de tous les nageurs américains qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques ici dans cette piscine, parce que souvent les trials, ouais, les sélections américaines ont lieu à Indianapolis. Donc dans cette piscine, ce ne sera pas le cas cette année, ce sera à Indianapolis certes, mais ce sera cette fois dans le stade de foot d'Indianapolis, le stade des Colts. Je crois qu'il y a 70 000 places dans le stade, mais là, pour la natation, ce sera 30 000. Donc, ce sera plus de spectateurs pour les trials que pour les sélections françaises en juin prochain.
Wow.
Les Jeux Olympiques, pardon.
Que les Jeux Olympiques. Il y aura plus de monde pour les championnats américains que pour les Jeux. C'est quand même énorme. On ne se rend pas compte de l'influence de ce sport aux États-Unis. Il y a évidemment les sports majeurs, Sophie. Les football américain, baseball, hockey, basket, mais la natation, c'est un sport qui a une vraie dimension, une vraie place.
Oui, et puis il y a une culture de la natation. C'est pour eux, c'est le plus grand sport olympique avec l'athlétisme. Hein. Ils sont pas aussi férus de judo, d'escrime, etc. que nous, ouais, on peut l'être au moment des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est vraiment le grand sport olympique avec l'athlétisme. Donc les trials américaines, sélection toujours couperée, hein, puisque on choisit les deux meilleurs de chacune des courses. En natation, en tout cas, c'est les deux. En athlétisme, je crois que c'est les trois, mais enfin en natation, voilà, il faut être dans les deux premiers. Et c'est toujours un gros suspense parce que parfois, il y a 5, 6, 7, 8 nageurs américains, les 8 de la finale, qui peuvent prétendre se qualifier au jeu et faire un podium une fois sur place. Donc, faire un podium aux Jeux Olympiques. Donc voilà, toujours un niveau extrêmement relevé.
Très bien. Alors, Julien, raconte-nous un peu cette compétition assez particulière que sont les championnats NCAA. C'est la March Madness, c'est ça, on l'appelle comme ça?
Oui, c'est en bassin de 25 yards. C'est une compétition très particulière. 25 yards, c'est 22,86 mètres, donc c'est tout petit. Ça existe qu'aux États-Unis. Hein. C'est une compétition aussi par équipe. Et effectivement, tu l'as dit, ça s'appelle la March Madness, mais ça a été rebaptisé ici cette année pour la natation, la Marchant Madness.
Come on!
Et hier soir, c'était plus que de la folie, hein, dans les tribunes ici et dans le COP des supporters des Sun Devils, l'université d'Arizona State de Léon Marchand que vous entendez derrière moi. Le Français a remporté sa course fétiche, le 400 yards 4 nages, assez loin de son record, hein, près de 4 secondes, mais quatrième chrono de sa carrière tout de même. On a pensé sur le moment qu'il s'était un peu réservé pour le relais qui avait lieu quelques minutes derrière. Pas du tout, il nous a expliqué qu'il était encore un peu émoussé de son record la veille sur le 500 yards. Et donc derrière, il a porté le relais 4x104 nages d'ASU, vainqueur avec le record universitaire. C'est une grande première pour son université. Et surtout, Léon Marchand a explosé la meilleure marque de l'histoire sur le parcours de brasse. qu'il détenait déjà, mais il a nagé quasiment une demi-seconde plus vite. Ça paraissait presque anecdotique, hein, pour vous le décrire, à le voir après cette course célébrer avec ses coéquipiers, avec le public, s'éclater. On avait vraiment à ce moment-là le sentiment que Paris était assez loin, hein, pour celui qui est annoncé comme la future star des Jeux, Léon Marchand.
Je pense pas du tout à ça. Ce que je pense en ce moment, c'est à créer un peu des souvenirs avec mes potes, tout simplement. Et franchement, je sais que dans 10 ans, on sera toujours en contact et on se souviendra de ces moments passés. Et c'est vraiment des souvenirs de ouf. Et c'est vrai que le relais, c'était génial. J'avais jamais vécu ça, je pense, avant. Parce qu'on en a fait pas mal, mais on est souvent arrivé deuxième, second. Et là, c'est vrai qu'on avait une belle opportunité. Et je pense qu'après, le temps était bien, mais ça comptait pas vraiment. On voulait juste gagner, quoi. On travaille ensemble tous les jours. C'est mes meilleurs potes, donc c'était génial.
Oh my goodness! Léon, c'est l'attraction de ces NCAA. Écoutez, Roddy Gaines, c'est la voix de la natation aux États-Unis, un triple champion olympique chez lui à Los Angeles en 84. Consultant ici pour ESPN et consultant aussi pour la NBC pour les Jeux Olympiques. Pour lui, c'est très simple. Écoutez, Roddy Gaines.
C'est le meilleur nageur de la planète actuellement, sans discussion. Il sait absolument tout faire et pas seulement en individuel. Il peut aussi apporter sa contribution dans les relais. La France possède déjà de super relais, mais avec Léon, ils peuvent les consolider pour aller jouer la médaille. Il y en a un comme lui par génération. Il y a Johnny Westmuller, Mark Spitz, peut-être Yann Thorpe, puis Michael Phelps. Et aujourd'hui donc, c'est la génération Léon Marchand.
Incroyable comparaison.
Sur place, on avait le DTN de la natation française, Julien Issoulier. Il est là, hein, il est venu voir finalement ça de ses propres yeux, Julien Issoulier.
Je le trouve très relax, un peu comme d'hab. Hein. Franchement, il est vraiment impressionnant sur ce niveau-là parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui l'atteint. Franchement, je suis impressionné par ça.
From Arizona State, Léon Marchand. Et Léon Marchand, donc, a encore l'occasion de marquer les esprits. Aujourd'hui, dernière journée, il va nager 200 brasses. Il a le record NCAA de la distance. Et il détient le titre aussi. Et le relais 4 fois sans nage libre avec son université. Donc, peut-être une journée historique, hein, pour le Français et pour son équipe, puisqu'ils sont en tête du classement de cette compétition. Et ils sont en passe de décrocher le premier titre universitaire de leur histoire pour les Sun Devils à d'Arizona State.
Magnifique souvenir qui est en train de se forger Léon Marchand. On l'a entendu, hein, et on le croit, Sophie. Il pense pas au jeu, quoi. Il s'éclate, il est avec ses potes, il gagne des courses avec ses potes. C'est un souvenir ad vitam aeternam. Toi, tu en gardes encore des étoiles dans les yeux de ces souvenirs.
Ouais, et puis les Américains, la plupart des nageurs américains n'ont, même de son université, n'ont pas forcément le potentiel pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc c'est la compétition de l'année. Et vraiment, dans l'université, quand on arrive, quand on commence la saison au mois de fin août, début septembre, on entend parler tous les jours de ces finales NCAA. Et là, l'idée, c'était pour la première fois dans l'histoire, Bob Bowman, leur entraîneur, le souhaitait vraiment et s'en sentait capable, pour la première fois dans l'histoire, d'aller décrocher ce titre NCAA. Et c'est quelque chose de magique. Et maintenant, il sait qu'il a fait le plein de confiance et il a 3 mois pour aborder cette longue ligne droite vers les Jeux Olympiques. Mais ce qu'il fait, c'est monstrueux. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se rendre compte de ce que ça peut équivaloir en bassin de 50 mètres. Parce qu'on sait qu'il a des coulées tellement, tellement, tellement monstrueuses qu'un bassin de 25 yards, c'est 20 mètres. Hein, c'est un peu plus de 20 mètres.
C'est tout petit.
Faire une coulée tous les 20 mètres, c'est pas pareil que faire une coulée tous les 50. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que le crawl, à la base, s'il l'a beaucoup travaillé cette année, parce que là, il a battu 2 records américains NCAA sur 200 yards et sur 500 yards. Ce qui est juste monstrueux, le crawl, jusqu'à l'année dernière, c'était considéré comme son point faible. Avec le dos. Exactement. Le dos, ouais. Et donc, son entraîneur a dit, on va travailler ce point faible. Et comment ce garçon, en l'espace d'un an, est capable de transformer un point faible en point fort? C'est ça qui est assez incroyable, c'est cette progression. Et puis, ce qui m'a interpellé aussi, quand on voit son 500 yards, 500 yards, c'est 20 longueurs de bassin, il fait la moitié de la course sous l'eau. C'est-à-dire qu'il est capable de faire, alors, c'est un peu plus de 400 mètres, hein, enfin, en tout cas, c'est 4 minutes et 2 secondes. 4 minutes et 2 secondes. Sur ces 4 minutes et 2 secondes, il fait plus de 2 minutes sous l'eau à vitesse maximale. Et on se dit, mais comment c'est possible? Ce garçon a des bronchies, c'est pas possible. Il est pas fait comme nous. Il a une capacité pulmonaire qui est totalement hors norme pour faire ça.
Ouais. Moi, je suis en hypoxie juste à le regarder nager. Hein. Ça fait mal et on a mal aux cuisses. Et
on a envie de respirer. On a envie de respirer quand on le voit sous l'eau. Vas-y, respire, Léon, respire. Tu vois la comparaison là pendant le reportage de Rody Gaines qui dit il y a eu la génération Wes Miller, Marcus Spitz, Ian Thorpe, Phelps. Et aujourd'hui, c'est la génération Marchand. Je rappelle que les autres noms qu'il a cités, c'est que des noms américains. Hein. Non, Thorpe.
Ouais, il a cité Thorpe,
l'Australien. Australien.
Du bout des lèvres.
Oui, oui. Mais ce sont des nageurs qui ont fait énormément de médailles, qui ont battu des records du monde, etc. Alors, Léon n'en est pas là pour le moment. Mais on le disait avec Julien l'année dernière. On se disait, mais je pense qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'imaginer ce que peut faire Léon Marchand. Et là, on est en train de s'en rendre compte. C'est un extraterrestre. Pour moi, c'est aussi fort que Michael Phelps. La seule différence dans le palmarès entre Michael Phelps et Léon Marchand, la seule vraie différence qu'on aura, c'est que Michael, il a les relais. Michael, il a les relais. Quand il fait 8 médailles d'or, il en fait 3 en relais et 5 en individuel. Léon, ça sera plus compliqué d'aller chercher des plusieurs médailles d'or dans les relais, forcément.
Magnifique, Léon Marchand, donc star annoncée pour les Jeux Olympiques, star française annoncée. Il y aura une énorme pression, mais enfin, on a l'impression que la pression, pour l'instant, lui coule sur le dos comme l'eau dans les piscines américaines. Merci, Julien. On te retrouve demain.
Enjoy.
Enjoy. Ouais, tu m'étonnes qu'il enjoy.
On va savourer, ouais.
Et aller sur le Val d'Indianapolis, voir un peu les courses automobiles. Non, c'est pas la saison.
Non, il y a rien. Je le cache pas qu'il y a rien. Il y a le match des Lakers ce soir à Indianapolis, mais ce sera pendant les finales de natation. Donc, concentré sur le bassin. Hein.
T'as choisi ton camp. Ouais, c'est le camp de la natation et pas celui du basket. Merci, Julien. Bonne compète. Régale-toi et reviens. Avec plein d'images dans les yeux.
Ciao,
Sophie, on va continuer à parler natation avec un garçon que tu connais bien, c'est Johan Ndoye-Broard, notre champion du 200 mètres d'eau et qui sera lui aussi l'une des stars de la natation française lors des Jeux. On lui souhaite et on l'espère, il est avec nous. Salut Johan.
Bonjour à tous. Salut.
Johan, quand tu entends le reportage de Julien consacré à Léon Marchand, à cette folie donc des universités américaines, toi, ça t'a jamais titillé le fait d'aller passer une année ou deux aux États-Unis dans une université? C'est pas un truc qui te titille?
Si, un peu, mais je suis trop attaché à ma famille pour pouvoir partir un peu aussi loin, en tout cas. Parce que il faut le savoir, Léon il voit pas tellement sa famille du coup, donc ça m'a toujours un peu attiré, mais ouais. La distance est compliquée.
T'as été démarché par des universités américaines d'ailleurs, toi Johan?
Non, jamais, puisque j'ai pas été très bon junior, donc forcément les universités ça les intéresse pas trop.
Ah oui, c'est ça, il faut être bon en junior. C'est à ce moment-là, parce qu'après, quand t'as dépassé les 20
quand
ans,
tu termines la high school, en fait, juste au moment où tu commences l'université.
Ouais.
Bon, tout ça pour partir en fait après le bac.
Ah c'est ça, d'accord. Bon, juste un mot sur Léon, sur cette folie. C'est vrai qu'on parle essentiellement de lui pour l'instant quand on parle de natation en France, mais vous aurez votre mot à dire. Et il y a quoi? C'est de la jalousie ou c'est quelque part on se dit ouais c'est bien, il prend la lumière et nous on va arriver, on va faire les médailles. Qu'est-ce que tu en dis, Johan, de tout ça?
Non, même pas. C'est plutôt un honneur de pouvoir faire une équipe de France avec ce gars-là. Enfin, les comparaisons tout à l'heure sont quand même assez stratosphériques. Hein. On parle de Phelps, fou, Thorpe. Ouais. Donc, pouvoir partager des moments en équipe de France avec une légende pareille, c'est quand même quelque chose de très très bien, très bénéfique pour nous. Donc, non, il y a beaucoup de fierté.
Voilà, une légende et un copain, parce que vous êtes potes. Vous allez faire des relais ensemble, peut-être, Johan, non?
Oui, j'espère. Là, justement, le relais qu'ils ont gagné hier, c'est le 4x104 nage. Et il a fait un bon parcours en brasse. Et j'espère pouvoir justement faire ce petit relais avec lui. Et je pense qu'il peut encore faire de grandes choses sur ce 100 mètres brasse en grand.
Ouais, parce que ça donne des idées aussi à l'équipe de France. De mettre Léon sur la brasse pour pouvoir composer le relais 4 nage un peu différemment. Parce que le relais 4 nage a un gros potentiel aussi, hein, au JO.
Et toi, ce serait qui alors? Il y aurait qui, les 4 titulaires ou avec les remplaçants? Vas-y, Sophie.
Alors, tu veux que je dise moi? Le meilleur dossiste entre bien évidemment Johan et Mewen Tomac. Ouais. Hein, donc on mettra le meilleur dossiste de l'individuel au départ du relais. Après, en brasse, tout va dépendre de ce qui va se passer au championnat de France avec les autres brasseurs. Mais si on se rend compte que les brasseurs sont loin du tout meilleur niveau, il est très possible qu'on décide du coup de mettre Léon en brasse. Et dans ce cas-là, on peut mettre Maxime en papillon. Florent Manaudou s'est essayé sur le 100 libre. au Giant Open la semaine dernière, c'est pas anodin. Pourquoi pas terminer un relais avec Florent Manaudou en nage libre? Qu'est-ce que t'en penses, Johan?
Ça aurait de la gueule, hein?
Ouais, j'en pense que c'est pas mal. Après, il faudrait quand même trouver une deuxième équipe pour le matin, eh oui, parce que on sait que Florent enchaîner 200 mètres, ça va être compliqué. Mais il y a des jeunes qui poussent. Nance Mazelier a fait des grandes performances pendant aussi ce Giant, donc il y a de quoi faire.
C'est vrai. Et toi, Johan, de ton côté, tu as quand même accumulé très très belles performances depuis le mois de janvier, depuis le début de la saison en Grand Bassin. Tu as fait plusieurs fois un petit 53 secondes au Sandoz, ce qui te classe dans le top 12 mondial. Est-ce que tu imaginais faire ça dès le début de la saison, et où est-ce que tu en es par rapport au plan de marche que tu t'étais fixé en début d'année?
Je suis carrément dedans. J'avais regardé justement les championnats du monde de Doha qui sont déroulés en février. Et l'accès au podium sur cette compétition était à 53-30. Et j'ai réalisé presque 4 fois ou 5 fois ce temps-là. Donc ça veut dire que je suis quand même bien placé en ce moment. Puis même sur ce qui se fait en ce moment dans les meetings internationaux, que ce soit aux États-Unis ou même en Australie, il n'y a pas grand monde qui nage 53 bas. Donc voilà, il n'y a pas encore le recordman du monde qui a nagé, Thomas Tchekhon. Donc j'attends de voir ce qu'il peut faire en meeting. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et je pense être dans la course pour une médaille.
Alors, comment vas-tu gérer ton printemps et ton début d'été, Johan? Il faut savoir qu'il va y avoir les championnats de France, qui sont le passage obligé, le passage à ne surtout pas rater. Ça arrive très bientôt, je crois, hein, Johan?
Oui, très bientôt. Bah là, on est revenu de 3 jours de break.
Ouais.
Et on a parlé un peu avec notre coach et on s'est dit, c'est la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques. Donc va falloir rien lâcher. On va faire un petit stage quand même au soleil à Tenerife la semaine prochaine, mardi prochain.
Vous 10 jours bien Tenerife, c'est sympa de prendre le soleil pendant l'hiver ou encore.
C'est sympa, il fait chaud et en plus, on bronze bien, quoi.
Voilà. Et les qualifications olympiques, du coup, au mois de juin?
Exactement, au mois de juin. Et il faudra être prêt. Je pense que sur 100 mètres, j'ai un peu plus de marge que sur le 200, mais il faudra envoyer quand même un gros 200 mètres d'eau pour pouvoir se qualifier et partir aux Jeux Olympiques, parce que la concurrence sera rude.
La concurrence française, tu veux dire?
Oui, la concurrence française,
Outre Mewen, il y a aussi d'autres...
Oui, bien sûr.
Sur 200.
Sur 200. Sur le 100, t'as réglé tout le monde, là, il me semble. Hein.
Sur 100 mètres, j'ai terminé deux dixièmes devant Mewen, donc on n'était pas si loin quand même, c'était assez short.
C'est serré entre tous les deux. Ça va, comment vous vivez cette rivalité? C'est une rivalité saine, c'est ton pote, c'est ton adversaire, vous buvez des coups ensemble de temps en temps, même si je sais que vous buvez pas trop en période olympique, mais comment ça se passe au quotidien? Pas facile d'être copain avec quelqu'un qui peut t'empêcher justement de réaliser ton rêve olympique.
Non, je dirais pas qu'on est de grands potes, mais bien sûr, que ce soit en stage ou même en compétition, ou même après la compétition, quand on a un peu le temps de fêter ça, on passe des moments ensemble, bien sûr. Après, par exemple, je dirais que sur cette compétition de Giant, cette rivalité, justement, nous a aidé à nager plus vite. Parce qu'avec la fatigue, c'était assez compliqué. Et justement, le fait d'avoir, deux adversaires de très haut niveau, on a réussi à faire une course quand même de niveau international. Je pense qu'on a fait un temps qui est quand même capable de rentrer presque en finale olympique. Donc, c'est pas anodin. Et je pense que c'est cette rivalité qui nous permet d'élever à tel point notre niveau.
Alors, tu le verras un petit peu moins l'année prochaine, Johan, puisque Mewen Tomac part aux États-Unis à l'université de Berkeley.
Ouais.
Et toi, alors justement, en parlant d'études, tu es étudiant en école de kiné, juste à côté de l'INSEP. Est-ce que tu as pu alléger ton emploi du temps cette année pour mieux te préparer pour les Jeux, comme le font d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'athlètes?
Oui, bien sûr, mon école m'a proposé justement une année de césure pour pouvoir me concentrer pleinement sur mon sport. Mais j'ai quand même décidé de pouvoir passer un peu de matière pour alléger en fait mon programme, surtout de l'année prochaine. J'ai surtout fait ça au premier semestre, et au deuxième semestre, par contre, là, ça va être vraiment plus light. Je crois que je vais juste faire les pratiques de kiné. Et pour le reste, on verra l'année prochaine.
Ton entraîneur, Johan, qui s'appelle Michel Chrétien, qui est un vieux de la vieille, évidemment, dit de toi, j'ai lu ça il y a quelques jours, que tu as changé, que tu es plus responsable, que tu es plus minutieux, que tu es totalement investi. De beaux compliments. Est-ce que tu le sens toi aussi? Et qu'est-ce qui a changé finalement? C'est dans ton approche de la compétition, dans le fait que tu réfléchis un peu plus avant de faire les trucs. Raconte-nous un peu comment il en est venu à penser ça.
Je pense que ça part surtout de ma blessure en décembre 2022, où justement je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse vraiment plus attention, et on apprend forcément beaucoup de ses erreurs. Donc je me suis dit qu'il fallait que maintenant... au-delà d'être un sportif de niveau, il fallait que je réfléchisse comme un sportif de niveau, que je vive comme un sportif de niveau, Et bah ça passe par le sommeil, ça passe par faire attention, ça passe par la nutrition. Donc voilà, par exemple, un exemple tout bête, mais à Noël, bah, j'ai fait plus attention qu'au Noël d'avant.
Parce qu'il fallait pas prendre aussi cette fois-ci, ouais.
Ouais, mais, ou même sur le point de la nutrition, je veux dire, je me suis pas jeté sur le foie gras, j'ai essayé de faire le plus attention. Donc ouais, après c'est plus facile une année olympique parce que l'objectif est juste devant nous et que surtout quand c'est en France où tout le monde nous en parle. Donc je dirais que c'est pas si compliqué que ça en fait.
Johan, il y a autre chose aussi, moi je trouve, sur lequel t'as évolué. On sait que t'es quelqu'un qui aime, tu aimes profondément ton sport. Tu as une culture de ton sport qui est assez incroyable. Ta maman a nagé.
Tu connais tout.
On peut te demander quel est le nom du champion olympique en telle année, etc. Parce que tu aimes profondément ton sport et tu connais toute sa culture, toute son histoire. Et justement, on avait quand même le sentiment, au début de ta carrière, alors je pense que tu as un petit peu travaillé là-dessus aussi, mais tu aimes tellement regarder les autres nager, tu es tellement encouragé, que finalement, même aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, on avait l'impression que tu étais presque plus là pour regarder, en prendre plein les yeux, que véritablement te réussir à te concentrer sur ce que toi tu avais à faire. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi ?
Oui, c'est vrai que en tant que fan de natation, je ne me voyais pas partir aux Jeux Olympiques et par exemple rater la finale du 100 mètres nage libre parce que c'est la finale la plus, ouais, bah, la plus regardée, c'est la finale la plus attendue.
Mythique, ouais.
Exactement. Donc je ne me voyais pas faire ça. Mais justement, j'ai appris de ça, j'ai appris à passer plus de temps à l'hôtel. Par exemple, je ne sais pas, à Fukuoka, il y avait le 404 nage, j'aurais pu aller le regarder Lyon faire le record du monde, mais j'ai préféré rester à l'hôtel pour me reposer. Après voilà, c'est juste que je vis pas l'ambiance de la piscine, mais je le regarde quand même à la télé et souvent je me dis que c'est quand même suffisant, surtout en période de compétition, et j'ai un peu grandi là-dessus, ouais, je pense.
Eh bien, continue à grandir, il est déjà assez grand comme ça. Combien 2 mètres 0, combien tu veux
97, 1,97.
Ah, je croyais que tu avais dépassé les 2
non,
mètres.
Non, presque.
Ah, pas loin. Merci Johan, on te souhaite une bonne fin de préparation, de bons championnats de France. On aura l'occasion évidemment de se reparler d'ici là, parce que Johan fait partie de la team RMC, ces athlètes que l'on suit plus particulièrement et qui nous parlent de leur préparation en vue de ces Jeux Olympiques de Paris. Et là, ça commence vraiment à se rapprocher sérieusement. Merci Johan, on te fait la bise et à très bientôt. On va d'ailleurs en parler de cette qualification olympique avec une jeune femme qui a donc appris hier soir qu'elle pourrait participer aux Jeux de Paris. Elle qui avait été sacrée championne olympique à Rio en 2016, médaillée d'argent à Tokyo en 2021.
C'est quatrième participation aux Jeux d'ailleurs.
C'est quatrième. Bah, bonjour Charline Picon.
On va lui demander.
Bonjour Charline.
Bonjour Charline.
Quatrième, elle dit Sophie, oui. C'est ça, quatrième participation.
Quatrième. Oh, J'ai commencé à Londres et à Pékin, j'étais remplaçante.
Ah oui. Ah, ça commence à faire quand même là. Là, ça vous pose une
olympiade.
Ça vous pose une olympiade, ça quand même. Hein, tu vois, 4 participations au jeu. Waouh. Et en plus.
Dans deux disciplines différentes.
Alors oui,
maintenant.
Dans le même sport, mais sur des embarcations différentes. Charline va nous expliquer ça. Tu as donc été sacrée championne olympique à Rio en planche à voile. Tu as toujours fait de la planche à voile. Et voilà, petit pas, qu'on te supprime la planche à voile pour te mettre sur un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appris ça? J'imagine que tu as dû avoir la tête retournée quand même. C'est terrible. C'est arrivé évidemment à d'autres. Il y a des athlètes qui savent, par exemple en karaté, on leur a supprimé le karaté, notamment notre Français qui était champion olympique. Dans 4 ans, tu ne pourras pas faire les Jeux. Charline, toi, tu as trouvé une solution de remplacement.
C'est ça. C'est vrai que Tokyo, je savais que c'était les derniers Jeux sur la planche à voile sur laquelle j'ai obtenu mes résultats, qui étaient remplacés par la planche à voile à foil. Avec le report des Jeux, déjà, on avait un peu un an de retard. Et puis, il y avait cette question du gabarit qui, effectivement, a pris chez les garçons 20 kilos et chez les filles au moins 10. Et je savais que ça allait être un challenge un peu trop compliqué.
Il fallait prendre 10 kilos pour être performant.
Ouais.
Ah ouais.
Et du coup, j'ai vu les transformations chez les athlètes garçons et chez les filles. Et c'était un vrai sujet, un vrai combat. Et puis, je pense que les Jeux de Tokyo, où on était un peu éloigné du public, de pouvoir partager avec tout ça avec nos proches, ça m'a aussi donné envie d'aller voir autre chose dans un sport un peu plus collectif, même si on n'est que deux sur notre embarcation, et de partager une dernière aventure Alors le challenge du 49er, c'est que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. En fait, je les côtoie depuis des années, mais je me suis jamais questionnée sur qu'est-ce
t'étais
que c'est de naviguer.
T'étais déjà montée sur les bateaux quand même. T'étais
montée. Ah non.
Jamais navigué sur un tas de bateaux, d'accord.
Non.
Ah ouais, c'est quand même un sacré défi, quoi. Et ta partenaire, pareil ou alors
elle... Alors Sarah, elle était passée sur ce bateau-là pour les Jeux de Rio. Et après, elle avait stoppé sa carrière pour avoir deux enfants. Donc du coup, elle est revenue quand je l'ai rappelé, ça l'a titillé un peu et puis voilà, l'a signé pour cette aventure.
Et pourquoi tu l'as choisi elle alors qu'elle avait arrêté finalement depuis quelques années? Est-ce que c'est le fait d'être maman comme toi qui t'a donné envie de vivre cette expérience avec elle? Est-ce
non,
que, du coup...
mais je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Sarah, voilà, c'est une barreuse au talent. Voilà, c'est assez incroyable. Elle a fait des résultats de fou en laser, en solitaire au début aussi. Et donc après 2012, elle est passée en 49er. C'était du coup la première fois que le 49er était féminin au jeu. Donc ça n'existe pas non plus depuis très longtemps pour les filles. Et elle avait fait sixième, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, elle a dit qu'elle stoppait sa carrière, mais que potentiellement Paris 2024, ça aurait pu l'intéresser. Et puis voilà, on est toutes les deux de La Rochelle, toutes les deux mamans, donc on a beaucoup de connexions. C'est aussi assez pratique quand on navigue en binôme d'être sur le même spot. Donc voilà.
Voilà, entre les îles d'Oléron, les îles de Ré, magnifique endroit pour s'entraîner avec son 49er. Et donc, vous avez réussi à vous qualifier. Enfin, je lisais un papier la semaine dernière, t'étais pas tranquille au niveau de la qualif.
Non, j'étais pas tranquille. Bah, clairement, par rapport à ce que j'ai pu vivre en planche où je dominais mon sujet. Là, le défi, il était assez fou. Il y avait deux autres embarcations des équipages qui jouaient la sélection. Et on a eu beaucoup de péripéties, on va dire, sur les deux ans et demi. Et on a fait un très beau championnat d'Europe au mois de novembre. On était pas très loin d'une médaille. Et par contre, Sarah s'est blessée à la suite de ça. Donc, on a eu un hiver un peu compliqué. Et sur le championnat du monde, on n'a pas du tout fait les résultats qu'on attend à la fois de la part de la Fédé, mais aussi nous en tant qu'athlète. Enfin, faire 33e au championnat du monde, c'est pas ce qu'on espère quelques mois avant les Jeux. Et du coup, ça a mis un suspense de malade, quoi.
Est-ce qu'il y a des similitudes entre ce que tu as fait avant et ce que tu fais aujourd'hui dans ton bateau de planchiste?
Il y a de l'eau, il y a le parcours.
Ouais, au niveau technique, au niveau physique. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, waouh, ça m'a servi au moins à quelque chose d'être championne olympique de planche à voile?
Évidemment, le côté expérience JO, savoir se préparer pour une échéance, un seul objectif. J'ai une expérience assez incroyable avec la planche. Maintenant, le côté technique. Alors, on est tout le temps debout, donc la planche, je pense, m'a un peu aidé à passer les compétences techniques au fur et à mesure. Mais malgré tout, je connaissais pas. Les termes techniques, même pas les noms des boots qu'il y a sur le bateau. Enfin, c'était un délire au début. Hein. Mais du coup, ce qui était sympa, c'est que du coup, au début, la courbe de progression il y a tellement de dossiers à ouvrir que c'est assez sympa. Mais après, après, voilà, ça reste un parcours. C'est les mêmes parcours. Par contre, c'est un autre sport techniquement. Et le plus gros challenge, on va dire, c'est de passer du solo au duo en termes de communication. Ouais. Parce qu'avant, en planche, je ne suis pas en train d'analyser. Il y a aussi l'expérience d'années de planche à voile qui faisait que les décisions, elles se prenaient en un instant en interne sans que je me parle ou quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu intuitif. Là, il faut réussir à expliquer ce qu'on ressent sur le bateau pour le faire avancer, pour prendre des décisions. Et tout ça, c'est le plus compliqué, oui.
Ouais. Est-ce que tu fais encore de la planche à voile à tes heures perdues, Charline? Ou alors t'es complètement laissé tomber, t'as coulé tous tes bateaux?
Non, j'ai pas le temps entre ma vie de maman, le projet Forti, la prépa physique, mon projet pour l'après-jeu, les machins, le cabinet de kiné. Enfin bon, non, sans mentir, je me suis essayée à la wing. Je sais pas si vous connaissez, c'est la.
Ah oui, c'est avec la voile que tu tiens dans les mains, c'est ça,
ouais. Et tu voles au-dessus de l'eau, ça, bon, je m'y suis mise.
Ah, mais tu vois, tu te mets au feu. Tu te mets au feuille un peu. Tu
oui, pas. Oui.
Et t'as pas pris 10 kilos.
Non, là c'est en loisir, tu vois.
C'est quoi ton projet l'après? Tu parles de ton projet de l'après.
Mon projet d'après, c'est que je mets les voiles sur un plus gros bateau parce que là il fait que 5 mètres. Donc on prend un catamaran avec mon conjoint et ma fille et on part en tour du monde avec un projet.
Génial, mon rêve, ça. C'est bon.
Il faut vivre ses rêves.
Mais bon, il faut savoir faire un peu de voile quand même. Je suis pas
Non, et alors là, je te dis aussi, c'est que j'ai jamais navigué sur plus gros que 5 mètres.
Mais ton mec, il maîtrise, non?
Mon mec, il maîtrise un peu mieux, mais je vais attendre.
Qui va être le skipper entre les deux?
On va faire des quarts. Hein. La nuit, ça va en prendre aussi.
Ou entre les trois même. Super. Quel âge elle a, ta petite?
Lou, elle a 6 ans et demi, donc non, on va.
Un peu jeune.
Non mais pour un enfant, c'est pour une enfant, c'est fantastique. C'est une expérience de vie. Moi j'ai des copains qui l'ont fait pour les gamins. C'est génial. Après il faut un peu faire l'école sur le bateau, mais à 6 ans tu peux encore te permettre. Tu vois, t'es pas rentré dans les années trop. Et ben voilà de beaux projets. Bravo. Charline, magnifique.
Yes.
Ben, on te souhaite plein de réussite dans tous tes projets. D'abord régale-toi au jeu parce que maintenant il y a plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Ouais.
Tu seras au jeu, non pas de Paris mais de Marseille, c'est pas mal aussi.
Hein. Et puis après l'or et l'argent, une petite médaille de bronze nous conviendrait bien.
Hein. Ah ben voilà.
Là, ouais, je signe aujourd'hui. C'est vrai que l'objectif il est un peu loin aujourd'hui en faisant 30e mondial, mais on a vraiment un potentiel et on a 4 mois pour l'exploiter au mieux. Donc c'est pas impossible.
Bon, il y a un peu de vent sur le bassin de La Rochelle en ce moment là. Il y a un peu d'air ou non?
Ouais. La Rochelle, il y a un peu d'air. Ouais.
Bon, c'est parfait. Merci Charline, merci beaucoup bravo et on sera derrière toi évidemment pour pousser et pour souffler dans les voiles de ce 49er. Merci Charline Picon, à très bientôt. 14h45 sur RMC, encore un petit quart d'heure dans notre magazine olympique sur RMC puisqu'on se rapproche du début des Jeux Olympiques et ensuite on passera à nos directs avec du rugby et du foot, c'est plus traditionnel. 14h45, Léna Marjac nous rejoint. Bonjour Léna.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Comment ça va?
Très bien.
Eh ben, elle est en pleine forme, elle a plein de choses à nous dire. On va commencer avec du tir à l'arc, puisqu'on a simulé le tir à l'arc dans là où se dérouleront les compétitions, Léna?
Non, pas sur les Invalides, c'était à l'INSEP. Ouais, et donc,
ça aurait été sympa de voir des archers sur les Invalides tirer dans les bagnoles.
Il faudra attendre cet été, mais l'objectif en tout cas cette semaine, c'était donc de se familiariser avec les conditions que les archers vivront donc pendant les Jeux cet été. Mercredi, des matchs en arène ont été organisés à l'INSEP, c'est ce format de compétition que les archers français retrouveront donc au JO, et Valentin Jamin était sur place.
Dans la chambre d'appel improvisée, les deux archers attendent, visage fermé avant leur match.
Représentant la France, Jean-Charles Valadon.
Jean-Charles Valadon monte, s'avance sur le pas de tir, salue les presque 90 personnes installées dans des tribunes temporaires, des invités, avant d'affronter son adversaire et habituel coéquipier Nicolas Berardi.
Quand on a une situation comme ça, qui sont assez rares d'ailleurs, j'essaye vraiment de me mettre à fond dedans. Et aujourd'hui, avoir une arène comme ça permet de prendre un petit peu ses marques, un petit regard, une proprioception de l'événement, de la grandeur, et qui permet vraiment de s'entraîner à rester dans sa bulle.
Tout est fait pour coller le plus possible aux Jeux Olympiques, l'échauffement, le speaker. Il y a aussi des drapeaux à gauche et à droite des archers, un écran géant avec des réalisateurs comme à la télévision.
Ça, c'est un piège qui peut souvent arriver en compète. C'est que t'es en train de tirer et avant même que ta flèche arrive en cible, t'as les yeux qui se portent sur l'écran pour voir où elle arrive et du coup, tu restes pas à 100% dans ton tir, tu fais des mauvaises flèches. Après, il y a la présence du public. Il y a une réaction directe avec le public si on fait une très belle volée avec des « ouais, bravo, t'as fait 3-10 » ou au contraire, quand tu fais une mauvaise flèche, tu ressens la déception dans le public. Forcément, ça te crée et génère de l'émotion en toi.
Et tous s'affrontent en tenue de l'équipe de France avant de répondre aux médias, car une zone d'interview a été mise en place comme au jeu et ça plaît à la meilleure française, Lisa Barbelin.
C'est important de se dire « ok, là j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fini à 15h, là ça fait 1h, donc j'enchaîne les médias ». C'est aussi se rendre compte qu'il y a autre chose, quoi. Et c'est pas facile de switcher de tir à l'arc et la paf média, mais c'est ce qui va se passer au jeu. Donc il faut s'y préparer. Ça permet de descendre les jeux de leur piédestal.
Et il y a ensuite un débrief avec l'encadrement. Ces matchs en arène n'arrivent normalement qu'en fin de grosses compétitions et c'est l'entraîneur coréen des Bleus, Monsieur Oh, qui a importé ces mises en situation de son pays, le meilleur du monde en tir à l'arc.
Le but, c'est d'augmenter les capacités mentales des athlètes. Tous les jours, on travaille. Mais si c'est pour que ça ne marche qu'à l'entraînement, ça ne sert à rien. Ils vont tirer devant 8000 spectateurs pendant les Jeux avec de la pression et du stress. Ça permet de faire une petite évaluation.
L'équipe de France va maintenant partir en compétition, puis il y aura d'autres simulations comme celle-ci avant de tirer sur l'esplanade des Invalides pendant les Jeux où il y aura en plus les anneaux olympiques.
Voilà une simulation donc fictive de ces Jeux Olympiques pour nos archers français. Et donc ce week-end, c'est aussi le grand lancement de leur saison de plein air. Ils sont en compétition à Compiègne pour le Grand Prix de l'Arc Viavis. 7 Français sont engagés. Les qualifications des hommes et des femmes se tiennent dans la journée.
Un lutteur français ne se rendra pas à un tournoi de qualification olympique en raison de ses origines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Léna ?
Oui, Gadjik Snoyan a un rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Mais le lutteur français ne sera pas à Bakou la semaine prochaine pour un tournoi de qualification olympique en raison donc du conflit entre l'Azerbaïdjan, donc la capitale est Bakou, et l'Arménie, son pays d'origine. Sa famille craint pour sa sécurité, Morgane Maury.
Sur le tapis de lutte de l'INSEP, Gagik Snoyan n'arbore pas son sourire habituel. Le prometteur lutteur est touché au cœur.
Moi, ces jeux, ça me tient à cœur. C'est sûrement le tournoi le plus important de ma vie. Ça me brise, mais honnêtement, voilà, je reste debout et je continuerai à aller chercher cette place.
Vendredi prochain, il ne défendra pas ses chances lors de l'avant-dernier tournoi de qualification olympique d'origine arménienne. Snoyan ne se rendra pas à Bakou, un choix fait pour rassurer sa famille meurtrie par le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Dans tous les cas, j'avais pris la décision d'y aller. Je savais qu'il y a un risque, mais honnêtement, de voir l'état de mes parents, de mon grand frère, j'ai envie de dire, je me suis senti obligé de ne pas y aller.
La Fédération internationale n'a pas voulu changer de lieu. La Fédération française s'est démenée. Elle allait payer un garde du corps 24 heures sur 24 avec Snoyan. Ses arguments n'ont pas convaincu la famille du lutteur.
Ils ont tous ces souvenirs-là des décès qu'ils ont eus et surtout de la situation actuelle. Donc ils ne veulent pas en entendre parler.
L'équipe arménienne et d'autres lutteurs étrangers d'ascendance arménienne comme lui ont pris la décision de ne pas aller en Azerbaïdjan. L'équipe de France envoie un autre combattant s'il se qualifie. Le rêve olympique de Gagik Snoyan ne sera passé.
Alors cet autre combattant, c'est Mamadou Sylla, donc qui sera à Bakou la semaine prochaine. En attendant, en cas d'échec de Mamadou Sylla, donc il aura un dernier tournoi de qualification olympique. Ce sera à Istanbul au mois de mai prochain.
C'est pas mieux, Istanbul, la Turquie. Pour un Arménien, je veux dire, c'est...
Bon, ouais, c'est des conflits géopolitiques à chaque fois. Mais bon, en tout cas, potentiellement, Gadjik Snoyan pourrait avoir cette dernière chance s'il décide d'aller en Turquie.
Donc là, si l'autre, son adversaire se qualifie pas, ils vont pouvoir se battre à la régulière sur le dernier TQ.
Alors il faut finir pour Bakou, il faut terminer dans les deux premiers de ce TQO pour avoir son ticket olympique. Donc si Mamadou Sylla il réussit, c'est terminé du coup pour Snoyan. En cas d'échec de la part de Mamadou Sylla, eh bien il pourrait y avoir ce dernier TQO donc à Istanbul au mois de mai prochain. Et là, il faut terminer dans les trois premiers de ce TQO là.
D'accord.
Voilà.
Et être le premier Français, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une place.
Voilà, oui, il n'y aura qu'une place pour les Français. On va prendre des nouvelles de Kevin Mayer, hein, dont on a suivi malheureusement l'échec la semaine dernière, l'échec pour décrocher les minima et donc participer au tournoi olympique. Il n'est donc toujours pas qualifié pour les Jeux. Hein.
Et non, parce qu'il a subi donc une blessure aux adducteurs la semaine dernière à San Diego, aux États-Unis. Kevin Mayer donc, n'a toujours pas réalisé les minima pour les Jeux. Et il n'est toujours pas à 100% encore, il a tenu, mais il a quand même tenu à rassurer lors d'une interview hier.
Il y a eu des années où j'ai arrêté 5 décathlons avant de faire les qualifications. Pour tous les décathloniens, c'est la même chose. Je sais que le grand public ne connaît pas le décathlon, mais il n'y a pas d'alerte à avoir. Je dis pas que je suis qualifié pour les JO, je dis pas que c'est fait. Je dis pas que ça va être facile, un décathlon, c'est jamais facile. Si je suis sur mon canapé en août, je le regretterai pas, je le sais. J'aurais tout donné pour y arriver. Maintenant, vu ce que je connais de moi-même, les probabilités pour que je sois sur mon canapé en mois d'août sont quand même très, très restreintes. Et heureusement.
Donc lors de cette interview, le Français n'a pas souhaité aussi donner de date pour un prochain décathlon. Kevin Mayer a jusqu'au mois de juin prochain pour décrocher son ticket olympique.
On lui souhaite évidemment Kevin Mayer. Il reste, ça se rapproche, ça se réduit le temps pour aller chercher cette qualif. En judo, un Français a terminé troisième d'un grand chelem. On va en parler. Puis aussi quand même Malonga hein, qui est en lice ce week-end pour aller chercher son ticket. Ce tournoi, c'est à Antalya.
C'est Antalya, oui, ouais. En Turquie, puisque la semaine dernière on en avait parlé, puisque les deux Françaises sont au coude à coude pour avoir un dernier ticket, donc on suivra Madeleine Malonga ce week-end. Mais là on va parler de Walid Kiar qui lui a remporté sa première médaille de l'année. C'est une médaille de bronze en moins de 66 kilos au Grand Chelem d'Antalya, aussi en Turquie. Un regain de confiance pour le judoka français.
Effectivement, vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais comprenez aussi les clubs, et je crois qu'il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus.
Alors évidemment, c'est pas du tout la bonne interview là, c'est Florian Maurice que vous entendez, donc on va pouvoir le laisser. Walid Kiar, c'était le son qui était prévu après, mais on a supprimé. C'est bien, ça suit, ils ont bien. Non, c'est l'heure de la sieste, qu'est-ce que tu veux. Donc Walid Kiar, troisième d'un grand chelem, et Malonga qui va tenter de se qualifier ce week-end au tournoi d'Antalya, au Château château de Versailles, l'ENA. Les travaux sont en cours pour accueillir les épreuves d'équitation qui auront lieu cet été.
Et oui, puis il a fallu réaménager une partie du site et installer notamment un stade temporaire pour accueillir le public. Alors, une partie des tribunes est déjà sortie de terre. Lauric Joseph est le directeur du site pour Paris 2024 et d'ailleurs, il nous décrit les lieux.
Voilà, là on se situe en fait sur la carrière principale. On est vraiment au cœur du site du château de Versailles. On est entouré par trois tribunes en forme de U qui vont accueillir 16 300 personnes. C'est la capacité du site. C'est la taille de Bercy qu'on a aménagé. Donc c'était un vrai défi opérationnel pour nous. Et puis derrière, on a le château de Versailles en fond avec le grand canal. Donc un cadre majestueux pour l'ensemble des épreuves.
Alors, il reste encore quelques travaux à faire, notamment finir le montage donc de ces tribunes, mettre en place également la tour des juges ou encore l'aménagement de la carrière principale. Mais tout cela.
Tour des juges.
Oui, comme au surf.
Comme au surf. Ça va, ça va pas gêner les jardins de.
Normalement,
de Marie-Antoinette, tout va bien.
Normalement, tout est prévu pour. On l'espère. On espère qu'il y aura pas de polémique derrière ça. Mais en tout cas, tous les travaux devraient être prêts avant le début des épreuves, donc le 27 juillet prochain pour tout ce qui est l'équitation à Versailles.
Ça va être magique, ça. L'équitation à Versailles, Sophie. Franchement, plus bel écrin, vous pouvez difficilement en rêver.
Ouais, non, mais c'est ça qui est bien aussi avec le fait d'organiser les Jeux Olympiques, c'est que finalement, on va pouvoir mettre en valeur tout notre patrimoine, un patrimoine culturel, et c'est chouette. Ouais, moi, j'ai hâte de voir ça dans le château de Versailles. Je connais bien, puisque mes parents habitent pas très très loin, et tous les dimanches, quand je nageais, non, pas à Versailles même, mais quand je, à l'époque où je nageais, j'allais faire mes footings tous les dimanches matin autour du Grand Canal. Je peux vous dire que le Grand Canal, ça fait à peu près 6 km, et voilà. Je me tapais le Grand Canal tous les dimanches matin, donc je connais bien.
Non,
en courant avec mon papa en vélo.
Très bien, merci Léna pour toutes ces infos. Une nouvelle édition du Journal Olympique demain après-midi aux alentours de 13h30. Je vais remercier également Sophie.
Merci.
Tu seras pas là demain, Christophe. Pas tous les samedis et tous les dimanches.
Non, je serai là la semaine prochaine, avec plaisir.
Là, tu vas aller manger l'agneau pascal demain, évidemment, tu es très attendu.
Et surtout le chocolat.
Surtout le chocolat.